Alors il aimerait se lever. Mais mon pauvre ami, tu es dans les mains de ton cœur. Et ton cœur dit non, on reste au lit. Mais c'est le travail nécessaire de tout bon juif. Nécessaire. Sans ça, rien ne va marcher. Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema de Yosef Ben Victoria Be'ezrat Hashem. La question de Yoel.
Comment on différencie le Yetzer Hara ou soi-même en prenant des décisions dans la vie?
Donc, quelqu'un doit prendre une décision dans la vie et tu me poses la question, comment savoir si la décision qu'il prend, elle est bonne, elle provient de la vérité, ou bien non, c'est peut-être le mauvais penchant que nous avons tous, d'accord, qui m'a fait prendre cette décision. Ok, alors on va aller par niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Niveau basique, c'est le suivant. C'est que quand on a une décision à prendre, quand c'est plus que très simple, alors on commence à être confus. Parce qu'il y a des arguments comme ci, des arguments comme ça, et forcément, on ne peut pas être complètement objectif. Parce que se mêle à notre réflexion toutes sortes de considérations qui proviennent de notre ego. Paresse. Ça, c'est un très grand argument de notre être. En décidant de faire quelque chose ou pas, ouais, bon, ben, on va dire, Yetzer HaTov, le bon penchant te dit, c'est juste, mais quelque chose te dit en toi, ouais, ben, ça me fatigue. Comme les enfants. Les enfants, ils ont une phrase qu'ils répètent peut-être 100 fois par jour, un nicoar, j'ai pas de force. Tout ce qu'ils ont envie, ils ont la force. Mais dès qu'on leur dit de faire un truc, vas-y, balaye un peu la chambre, va faire ci, ça, j'ai pas de force, d'accord? Ben, on est des grands-enfants, nous on a tous ces pulsions de paresse, des pulsions de recherche d'honneur. Si je ne fais pas ça, peut-être on va... Ben, j'ai le choix entre deux métiers. Il y a un métier qui est très pratique. Je peux avoir mes shabbatos, je peux avoir le temps, j'ai une bonne fréquentation, machin. Et il gagne bien aussi. Mais ce n'est pas un beau métier. Par exemple, moi je conseille beaucoup, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Israël par exemple, plombier. Ça gagne très bien. Tu travailles aux heures que tu veux, tu ne dois rien à personne, tu gagnes bien ta vie. Mais tu n'es pas un médecin, tu n'es pas un avocat, tu es un plombier. Il y en a qui ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Même s'ils vont le faire, c'est sa mère qui va l'appeler. Ce n'est pas le moment pour que tu sois plombier. Je rêvais que j'ai un fils avocat ou médecin, comme beaucoup de... mère nord-africaine. Donc il y aura forcément beaucoup, beaucoup de sentiments qui vont argumenter aussi avec cet argument objectif. Alors, si c'était quelqu'un d'extérieur à moi, je pourrais plus facilement décider ou l'aider à décider, parce que moi, je n'ai pas les pulsions de l'ego qu'il a. Donc je peux très bien voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Et quand c'est moi-même qui dois décider, ça se mêle. Et là, ça devient très difficile à décider. Et très souvent, on peut faire le mauvais choix. Alors, la façon de faire, elle est très simple. Il faut prendre une feuille et mettre des arguments pour et contre. Mais on met des arguments objectifs. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Et à la fin, on fait les totaux. Et assez rapidement, on verra quelle est la bonne solution, mauvais ou bon. Et quand on verra que, par exemple, on arrive à une conclusion, voilà, c'est bien, il y a ça, oui, c'est bien, il faut faire cette chose-là. Tout de suite, on va entendre d'autres arguments qui vont commencer par oui, mais. Oui, mais. Et tous les mais qui vont être dits, ce ne sont pas des mais objectifs, parce que s'ils étaient des mais objectifs, on les aurait déjà mis dans la feuille, des arguments. Ce sont des mais subjectifs qui proviennent de mon mauvais penchant. Ça me fatigue, qu'est-ce que les gens vont dire, j'ai pas la force pour ça, ça me donne pas assez d'honneur, ou c'est trop, ou c'est honteux, toutes sortes de choses qui sont tout à fait hors circuit, c'est pas ça qui compte, mais ça existe. Mais le fait qu'on ait mis par écrit des arguments objectifs, et qu'on a une conclusion, Ça, au moins, je vois clairement qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Après, je n'ai pas annulé mon yetzer hara à cause de cela. Je l'ai défini. Lorsqu'il y a une argumentation de mon mauvais penchant qui va me dire « Ouais, mais c'est fatigant. Ouais, ça ne me dit pas, ça me saoule, etc. » D'accord ? Je saurais que ça provient du yetzer hara. Parce que du point de vue objectif, j'ai fait l'analyse et j'en reviens à une conclusion. Le « oui, mais », ça veut dire quoi, « oui, mais » ? Ça ne veut rien dire. Tu dis « oui », alors c'est « oui ». Pourquoi tu dis un « mais » ? S'il y a un « mais » intelligent, on l'aurait mis déjà, d'accord ? C'est forcément un « mais » idiot. C'est-à-dire un « mais » qui provient des sentiments égaux, de l'ego. L'ego qui est la pire invention au monde, d'accord ? Qui tue tout le monde. Je parle de l'ego animal. On a deux âmes. On a une âme divine et une âme animale. L'ego divin, il est fantastique. Un être humain qui veut sa partie divine, veut se rapprocher de Dieu, veut faire le bien. Il aime Dieu, il veut réussir dans la spiritualité. Ça, c'est très positif. Mais on est NAIT sans cela. Quand on est, on va naître avec que la partie de l'ego animal. Tu vois un enfant. Il y avait un pauvre type qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, qui vient de ma ville natale, Genève, qui a dit que l'homme naît parfait, NAIT parfait, mais la société va le gâter, et non exactement le contraire. Que l'homme va naître entièrement mauvais, c'est qu'un morceau d'ego, un enfant. Et si on ne l'éduque pas, il y en a comme ça, hélas, ils deviennent des adultes invivables. Invivables. Ils vont un peu s'écraser pour faire des doux sourires à leur fiancé, la faire tomber dans le panneau, puis après, c'est terrible. Elle va souffrir toute sa vie d'un mari qui n'est pas, c'est pas un être humain, c'est un type qui pense qu'à lui. Animal, égoïste, coléreux, méchant, cruel, mesquin, tout ce que tu veux. Toutes les bonnes qualités du monde, il les a. Ça, c'est un enfant qui n'a pas été éduqué. Alors, l'éducation, ce n'est pas simplement arrêter de mettre les doigts dans le nez et manger avec une fourchette et un couteau, c'est arriver à s'écraser. D'où d'ailleurs le grand avantage des familles orthodoxes, qui font beaucoup d'enfants. Parce que quand il y a beaucoup d'enfants, forcément, chacun doit commencer à réduire son ego. Si tu es un enfant unique, ou vous êtes deux enfants dans une famille, ton ego, il est assez grand. Mais s'il y en a d'autres, ils prennent la place aussi. Donc tu es obligé de t'écraser. C'est une très bonne école, d'accord ? Dieu a bien fait les choses. Parce que de façon naturelle, une famille normale, elle a sept enfants, d'accord ? C'est la moyenne à peu près de natalité dans les familles orthodoxes en Israël. C'est éducativement extrêmement positif, parce que la personne, elle peut moins développer son ego. Elle aura aussi un ego, mais moins. La famille fait pression, les enfants, les frères et sœurs, les savates, etc. Eux-mêmes, entre eux, d'accord, il y aura même des bagarres, des choses, mais si un type, il n'a pas quelqu'un qui se confronte à lui, ben, il est là, puis un beau jour, il se marie, il dit, mon cher ami, maintenant, tu dois t'écraser. Mais il ne peut pas, c'est impossible. Tu vois, aujourd'hui, qu'il y a tellement de problèmes de Shombaï, c'est essentiellement dû à cela. Que les gens ont un ego tout à fait disproportionné et ne peuvent pas accepter de l'écraser. Les deux, hein. L'homme et la femme ne sont pas différents. Mais il semblerait que l'homme a quand même un ego pire que la femme. L'homme, il est dans l'ego. Tu comprends, la femme, dans sa nature, elle est plus... si elle aime son mari et tout ça, elle est plus... je ne sais pas le mot en français, mournat. Elle est plus subordonnée. Elle veut servir un mari qu'elle aime et qu'elle admire. Un homme, c'est un maître, de façon naturelle. Maintenant, si c'est un homme bien, il sera un bon maître. Ça veut dire quoi ? C'est un type qui va s'écraser pour dire de sa femme. D'accord ? Elle veut aller à la montagne et lui veut aller à la mer, on ira à la montagne. Il veut voir ses parents, on va voir ses parents à elle. Ça, c'est un bon maître. Tu comprends ? Dans un couple idéal, chacun va essayer de s'écraser pour faire le désir de l'autre. C'est très beau, ça. Et ça crée d'abord un couple de bonheur. Et ne faites pas de bonheur aussi grand que cela. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de kavod, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais à la maison, avec la femme, ça ne va pas. Ils n'ont rien. C'est malheureux comme tout. Ils sont dans une détresse terrible. Et en a qui n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les honneurs, mais ils ont un bonheur à la maison. Mais c'est fantastique, il rentre à la maison le soir, il est aimé par sa femme, il aime sa femme, ils s'entendent, ils sont heureux, ils sont contents. Il y a tout, qu'est-ce qui lui manque ? Et les enfants qui voient cela, eh ben, ils ont tout aussi. Un enfant qui voit des parents qui s'entendent et qui s'aiment et qui se respectent, qui n'entendent jamais un cri. Il y a des familles que je connais, les enfants n'ont jamais entendu un cri du père ou de la mère. Ils s'énervent, ben ils s'écrasent. Crier ! Non mais on n'est pas dans la jungle. Aujourd'hui, c'est pas crier, c'est on espère qu'ils ne vont pas se boxer, ouais. Terrible. Tout ça à cause de l'ego. Alors c'est une petite parenthèse pour expliquer que l'ego dans nos décisions, il se mêle beaucoup. Un moyen de ne pas le neutraliser, mais de l'identifier. C'est comme j'ai dit, tu vas écrire tous les arguments objectifs. Et à la fin, tu arrives à une conclusion. Et là, directement, l'ego, il va sauter. Oui, mais... Quoi, tu as dit oui, alors tais-toi, tu as dit oui. Pourquoi tu dis oui? C'est que tu reconnais que c'est vrai. Mais, ok, ce mais ne m'intéresse pas. Et celui qui va réussir à ce moment à non seulement identifier, mais neutraliser son mauvais penchant, ça c'est un tzadik. C'est écrit que les tzadikim, leur cœur est dans leurs mains. Et les rechaim, leur cœur dans leurs mains, et les rechaim, ils sont dans les mains de leur cœur. Le cœur, c'est la partie animale, c'est l'ego, d'accord ? Il aimerait un rachat, un mécréant, il aimerait faire des choses bien, mais il ne peut pas, on va dire. Prenons un exemple très, très quotidien, d'accord ? Arriver à l'heure à la prière le matin. Chaque bon juif, il aimerait bien arriver à l'heure le matin à la prière. Mais quand il est dans le lit le matin, c'est qu'il bosse, c'est le SRA, d'accord ? Il pèse quelques tonnes. Alors il aimerait se lever. Mais mon pauvre ami, tu es dans les mains de ton cœur. Et ton cœur dit non, on reste au lit. Et tu l'écoutes. Et tu l'écoutes. D'accord ? Arriver à faire en sorte que mon corps soit dans mes mains, c'est moi qui décide. C'est un travail d'une vie. Mais c'est le travail nécessaire de tout bon juif. Nécessaire. Sans ça, rien ne va marcher. Le couple, on n'en parle pas, mais au travail non plus, tout ça, il sera haï ce type-là. Haï ! Parce que qui dirige la personne, cette personne-là, une partie animale. Les animaux entre eux, ils font la guerre. Ils ne s'aiment pas, c'est terrible. Il n'y a rien de plus agréable de voir quelqu'un de humble. Parce qu'il maîtrise son ego, il se prend pour rien. Il est aimé par tout le monde. Il aime tout le monde, il est content avec tout le monde, il parle avec tout le monde, il est sympa. C'est des choses, c'est des gens aimés. Ça provient ou de façon naturelle, ou d'un travail que la personne a commencé à limiter son ego. Et c'est un travail d'une vie entière, d'une vie entière. Bon, ça, c'est le moyen basique pour déjà arriver à prendre les bonnes décisions. Ensuite, des fois, il se peut que dans l'argumentation objective aussi, on a des doutes. On ne sait pas qu'est-ce qui est préférable, ça, ou des fois, il y a des dangers. On ne sait pas très bien évaluer le danger, d'accord ? Quelqu'un maintenant, il a rencontré une jeune fille, ou une jeune fille a rencontré un garçon. Ils se plaisent, mais il y a des questions. On voit un problème, comme ci, comme ça. Est-ce que c'est un problème essentiel ou tout à fait accessoire ? Et quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il peut inverser. Il a vu un truc qui ne va pas, il dit j'arrête. Alors que c'est dommage, que ce n'est vraiment pas une bonne raison. Et il verra un problème qui est vraiment essentiel, il dit non, ça ne sert à rien. Puis en fait, c'est un vrai problème très grave, tu comprends? Donc ça vaut la peine. Dans toutes les décisions où, au niveau objectif des arguments, on ne connaît pas très bien la réalité des choses, ça vaut la peine de prendre conseil chez des spécialistes, des gens qui ont l'expérience. Et ça, on appelle ça les sages d'Israël. Alors, il y a toutes sortes de niveaux. Un niveau super basique. Alors ici, nous, pour les trucs basiques à l'Eshiva, on a l'expérience, on peut aider des gens qui ont des questions. Mais des fois, c'est beaucoup plus calé. On aura des rabbins plus grands. C'est juste qu'on arrive aux grands de la génération qui, eux, sont aidés par Hachem. Les grands de la génération, j'ai mon voisin qui était très proche du Rav Chaim Kanievski. Il était par de ce fait, il était très proche aussi des petits-fils du Rav Chaim Kanievski. Alors, Chaim Kanievski, c'est ses petits-fils qui, à tour de rôle, recevaient le public pour faire rentrer chez le Rav. Et un jour, il y a un couple qui rentre, pose une question, et le Rav répond. Quelques jours plus tard, un autre couple rentre, pose la même question, et le Rav répond exactement le contraire. Alors, le petit-fils, on avait le grand-papa, je ne comprends pas. L'autre jour, il y avait un couple, il pose la question, tu as répondu comme si, là, tu as exactement le contraire. Alors, le Rav, il a dit, je te répète, mon fils, les paroles que Dieu me met dans la bouche, c'est ce que je dis. Bah, quand on va chez les grands, grands, grands de Torah, là, c'est déjà le bon Dieu qui répond. Et là, on sait, sans aucun doute, que c'est une bonne décision. Où est la bonne décision à prendre? Voilà. Des questions à ce sujet? Bon, bah, que Dieu nous aide à prendre des bonnes décisions dans la vie, oui.
Pourquoi on dit qu'il y a une âme animale et une âme... et pas l'âme et le corps
Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une âme animale et une âme divine? Quand je parle de l'âme animale, je parle de la partie spirituelle qui gère le corps. Quelqu'un, il a faim. La faim, la jalousie, la colère, la recherche de « je suis quelqu'un que tout le monde voit, que je sais, je suis », d'accord? C'est pas quelque chose de physique, tu ne veux pas quantifier ça avec, avec une balance, d'accord? C'est des choses qui sont du domaine spirituel, mais c'est la partie la plus basse de notre spiritualité, c'est la gestion corporelle. Alors, je ne peux pas dire quelqu'un, il est orgueilleux, tu peux donner une quantité, quantifier ça, on ne peut pas. Quelqu'un, il a faim, quelqu'un, il est nerveux, d'accord, on ne peut pas quantifier ça. Donc, ce n'est pas des choses physiques, mais c'est la gestion spirituelle du physique. Voilà, ça, on appelle ça l'âme animale. L'âme spirituelle, c'est l'âme divine, d'accord, c'est celle qui nous pousse à se poser des questions existentielles. Pourquoi je vis? Quel est le vrai but de ma vie? Le désir de ne pas vouloir rater sa vie. Tu as beaucoup de gens, quand on leur parle des raisons essentielles de la vie, pourquoi tu vis, ils disent « Oh là là, tu me saoules. Je n'ai pas la réponse à la question, laisse-moi vivre. » D'accord? Ça veut dire « Laisse-moi crever. » Pourquoi? Parce que toute sa vie tourne autour de ses pulsions physiques. Et plus il a soumis ses pulsions physiques, plus il sent qu'il réussit sa vie. D'accord? Comme un chien. Il n'y a pas beaucoup de différence. D'accord? Qu'aime un chien? Il aime les chiennes. Il aime manger. Il aime dormir. Et fait un peu la guerre avec celui qui l'embête. D'accord? Ben c'est ça un être humain qui n'a pas travaillé son âme animale pour devenir à l'image de Dieu. Il aime les filles, il aime manger, il aime dormir, et il aime la concurrence avec les autres, d'accord? Se bagarrer même s'il faut. Voilà, à peu près ça. Mais t'es pas un chien, t'es un être humain, mon cher ami. Alors qu'est-ce qui te différencie du chien? Et je dis très souvent beaucoup plus que cela. La preuve qu'on n'est pas des chiens, c'est quoi? Parce que non, moi je suis un chien performant. D'accord, le chien il mange des nonos, moi je vais manger chez Maxime. Je ne sais pas, de mon temps, il y avait un grand restaurant qui s'appelait Maxime, je ne sais pas si ça existe encore. D'accord? Quelle est la preuve qu'on n'est pas des chiens? Si on fait une étude sociologique sur le bonheur des chiens, tu verras que l'hypermajorité des chiens sont bien plus heureux que les êtres humains. Sans aucun doute. Alors tu es un chien raté. Ou bien non, peut-être tu n'as pas compris, tu n'es pas un chien. Tu as un chien. Tu as, chacun de nous, il a un chien méchant, terrible, un ego de chien terrible. Mais tu es un être humain, tu n'es pas, tu as. Il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser. Il faut le travailler. Il ne faut pas laisser être le boss. C'est nous le boss. Mais il ne veut pas. Au début, c'est un rodéo. Hein. C'est comme un cheval sauvage. Tu le mets dessus, il t'envoie balader de tous les côtés. Il faudrait qu'il y ait les Shiva. Les Shiva, c'est un endroit où on fait de l'élevage. Pour essayer de faire des gens bien. Et c'est là, c'est pas toujours qu'on arrive. Bon, tellement de gens ont fait des yeshivas, tout ça, puis après ils se marient, et c'est des vrais des monstres de l'ego. L'ego, c'est un monstre, c'est terrible, terrible. Regarde autour de toi, tu verras. La majorité des couples, c'est des malheurs terribles. Il semblerait. Je n'ai pas fait une étude statistique, mais en tout cas, ce que j'entends, et évidemment, ça arrive chez nous, ce genre de problème. Mais qu'est-ce qu'on entend? Mais des trucs terribles, terribles. Monde orthodoxe, moi, hein. Mais aussi, bien sûr. C'est pas parce que tu es orthodoxe que tu es devenu un grand sadique. Je veux dire quelque chose de plus. Dans le monde non orthodoxe, ça n'existe même plus les couples. Pourquoi se marier avec quelqu'un et puis souffrir, d'accord? Je m'éclate un peu avec elle, et puis après, avec elle, ça ne demande rien comme travail d'ego, parce que si ça ne me plaît pas, ben je quitte. Donc c'est encore plus permettre à la partie animale de faire tout ce qu'elle veut. Le couple, à la base, la raison pour laquelle Dieu a créé le couple, c'est pour cela. On va finir avec cela, d'où on apprend que le premier homme, lorsqu'il a été créé, homme-femme. Zachar benekava bara otam. Mâle et femelle, il les a créés. Il a créé un être humain qui avait les deux en lui. Après, la Torah dit que Dieu dit « Lotov heyot adam levado », ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est lo ezer kenegdo, je vais faire une aide en face de lui. Et il fait une opération chirurgicale, sépare homme et femme. Pourquoi c'est pas bien? C'est très très bien. Il n'y a jamais eu des problèmes de shambait entre la partie féminine et masculine du même homme, du même homme-femme. Ils s'entendaient à merveille. Comme mon bras droit ne va pas taper mon bras gauche, d'accord? Ça n'existe pas un truc pareil. Alors pourquoi Dieu dit c'est pas bien, on va les séparer? Réponse, tu ne pourras jamais être bien. Parce que tu es bien avec toi-même. Quelqu'un vient et te dit aide-moi. Pourquoi tu viens me voir à moi? Il y a 8 milliards d'habitants, on va voir quelqu'un d'autre. Tu peux rester quelqu'un de mauvais. Dieu veut nous enseigner à devenir bien. Ça veut dire donner de nous, nous écraser pour un autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ma propre moitié, il la coupe, la met en face. Et vas-y. Maintenant, tu es obligé de t'écraser avec ta femme. Obligé! Sinon, ça boum! Quand tu es avec ta femme, c'est le réciproque aussi, la femme avec l'homme. Sinon, ça fait un boum supersonique. Donc, la raison même du mariage, c'est pour que l'homme apprenne à s'écraser. Je remets ça dans tous les mariages. Bienvenue à l'école d'écrasement. D'accord, que les gens comprennent pourquoi ils se marient. Alors Dieu a fait qu'on s'aime bien, on est attiré, machin. Ouais, ben c'est le cinéma. On leur fait sa mère, on danse pour eux, pour camoufler un peu qu'est-ce qui les attend. Si ma fille m'a raconté, ma fille aînée, que j'avais averti, attention, et faire attention. Alors, quelques mois après le mariage, elle m'a dit, papa, tu m'as fait un tableau tout noir. Baruch HaShem, c'est un tableau tout rose. Alors celui qui s'attend à un tableau tout noir, il va se travailler, il se prépare, il sait qu'il faut s'écraser, ça devient tout rose. Celui qui attend tout rose et ne s'est pas préparé, ça devient tout noir. Hachem Yishmor. Voilà, que Dieu nous aide à travailler notre ego, aide des bons juifs, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.